Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, nous allons partager un texte dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. Et je vais vous donner donc la référence, 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. Alors, je répète, 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. J'aimerais que nous portions notre attention ce matin, que nous nous concentrions sur ce passage. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Alors je pense que personne n'est ennemi de son bonheur, quoique il y a une telle détresse dans le monde qu'il y a des gens qui ont renoncé à aimer la vie. Et vous en connaissez les conséquences. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est véritablement d'une grande désespérance. Je ne vais pas citer le nom, mais vous l'avez compris. Et là, il est question finalement, dans la parole de Dieu, du contraire. Voir des jours heureux. Il y a une personnalité que vous connaissez, connue dans le monde entier, qui a écrit ceci. Le bonheur, c'est si petit. Ça semble quelquefois, passager, éphémère. C'est tout petit, si petit qu'on ne le voit pas. Et c'est quand il est passé que nous nous apercevons, de ce qu'est le bonheur. Et souvent, les hommes parlent au passé, dans ce temps-là. Hier, il y a quelques années, alors on s'en souvient à ce moment-là qu'il y avait des temps particuliers qui étaient certainement liés à peut-être la jeunesse, peut-être des temps de réussite, pour les chrétiens des temps de bénédiction, mais la bénédiction n'est jamais finie, hein. Avec Dieu, lui, c'est véritablement un fleuve. La bénédiction est un fleuve qui ne s'arrête jamais à travers les temps, les générations et les siècles. Alors c'est vrai que c'est souvent lorsque les choses sont passées que nous nous souvenons de ces temps de bonheur. Maintenant, c'est vrai qu'on oublie vite aussi les temps difficiles, les temps qui sont beaucoup plus qui nous ont laissé peut-être des blessures, toutes sortes de choses. Alors, il y a les deux, naturellement. Alors, ce bonheur, on le cherche partout. Pour le renouveler aujourd'hui, parce que je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où nous nous rassemblons ensemble dans la communion fraternelle, à la différence des autres jours, où nous avons aussi peut-être des rendez-vous entre nous. Mais le dimanche est quelque chose de particulier. Alors, on le cherche partout. Pourtant, il est là, le bonheur. Il n'est pas si éloigné. Il est présent. Pourtant, il est là. Et cette personne qui a écrit ce poème, il est là, qui chante avec le vent. Faut pas trop de vent, hein, parce que les chapeaux tiennent pas sur la tête. Mais enfin, bon, c'est pas une grande source de bonheur. L'oiseau qui chante dans le ciel. Eh oui, quelquefois c'est agréable. Moi, j'ai une terrasse, il y a un grand arbre qui va être coupé la semaine prochaine. Parce qu'il est malade. C'est dur. Et il y a, en effet, eh bien, des oiseaux qui viennent et je leur réponds. Je suis quand même un drôle d'oiseau, hein, quand même. Alors, je ne sais pas s'ils me comprennent, mais moi, j'apprécie qu'ils chantent le bonheur, leur bonheur à eux. Ils chantent dans le ciel. La rivière qui murmure, il y a quelquefois, eh bien, auprès d'un torrent, auprès d'un ruisseau. Eh bien, aussi, cette expression du bonheur. Il y a, je l'ai dit, le ruisseau qui chuchote. Il y a le soleil également, qui est source, finalement, de bonheur, parce qu'il lui apporte sa lumière, il apporte sa chaleur. Pas trop, mais quand même suffisamment. Et tout cela, eh bien, nous parle et nous dit beaucoup de choses. C'est vrai, quand on est en bonne condition, peut-être ça favorise le bonheur. Mais il est tout extérieur, celui-ci. Mais il peut y avoir un bonheur que vous ne connaissez peut-être pas. Enfin, je ne parle pas pour ceux qui sont engagés, mais pour ceux qui sont en train de découvrir Jésus et son évangile, la parole de Dieu. Et c'est quelque chose, en effet, une véritable réalité. Alors, on le voit aussi dans le regard d'un enfant. C'est formidable, un petit, hein ? Là, je voyais le petit Matisse qui était assis sur la chaise devant sa maman. Il avait les jambes écartées et il chantait. C'est beau ! Eh oui, le regard d'un enfant. Le pain que l'on rompt et l'on partage avec des amis. Ça, c'est aussi source du bonheur. La main que l'on tend, parce qu'on sait qu'il y a des besoins. Parce qu'il y a peut-être des cris de détresse et cette main que l'on tend, sans parole, eh bien, c'est certainement, eh bien là, une avancée. Pour rendre une personne malheureuse, heureuse, on lui tend la main. Alors, le bonheur, c'est vraiment tout petit. Oui, c'est vraiment tout petit. On le cherche dans notre société actuelle, moderne. On le cherche dans le béton. Bon, d'une façon, hein. Je ne voudrais pas critiquer ceux qui construisent des maisons. Mais c'est un petit peu la mentalité. Ah, si j'avais ceci, si j'avais cela. On le cherche dans l'acier, les réalisations époustouflantes que l'homme est capable. On le cherche aussi dans la fortune. Si j'étais riche. Eh oui, et pourtant il y a des démentis par rapport à ça. Et on s'aperçoit que quand on regarde dans un sens ou dans un autre, le bonheur n'y est pas toujours présent. Et quelquefois, il n'y est pas du tout. Ni même dans l'aisance et dans le confort. Il y a des gens qui vont travailler toute leur vie, qui vont se donner un mal fou pour réaliser certaines choses et en pensant qu'ils auraient le bonheur, mais ils en ont perdu la paix. Ils en ont perdu la joie. Ils ont véritablement investi tout ce qu'ils avaient en économie, en santé, tout ce que vous voulez, mais le bonheur n'est pas là. Alors on veut le construire. On veut le construire sans Dieu. On veut le construire sans celui qui est le Créateur. Et une des sources du véritable bonheur, c'est non seulement la création, dans ce grand livre de la création, mais c'est aussi celui qui est notre Rédempteur. Notre Sauveur. Alors là, c'est beaucoup plus intime. C'est beaucoup plus profond à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous avons découvert le Seigneur, à travers des expériences spirituelles, à travers des exaucements de prières, à travers des choses qui étaient pour nous des mers rouges et qui nous empêchaient d'aller plus loin, et on a pu les traverser à pied sec, ces mers rouges. Jusque peut-être redonner la vie à celui qui était juste au niveau, finalement, de la perte de cette vie. Dieu est capable de tout. Il est capable de véritablement nous donner le bonheur. Alors, je voudrais simplement le signaler avant d'aller un peu plus loin dans notre méditation. Je voudrais vous dire c'est une parole d'homme, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je vais m'inspirer de la parole de Dieu pour vous dire que le bonheur est là. Ouais. Il était ? Probablement. Mais il est là. Et moi, je crois qu'il est là parce que demain, il sera encore là. Et tout au long de notre vie, le bonheur est là, si nous voulons véritablement le prendre en considération, et celui qui le donne. Celui qui le reçoit aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont complètement hostiles. Ils pleurent après le bonheur, et quand le bonheur est là, ils sont aveugles, ils ne le voient pas, ils ne le saisissent pas. Ou alors, quand ils l'ont un tant soit peu dans les mains, hein, ou je ne sais où, eh bien, à ce moment-là, ils le cassent. Ils le cassent bêtement. Et pourtant, ils n'ont pas vu que c'était une bénédiction. Le bonheur est une bénédiction de Dieu. Le bonheur est dans sa parole. Le bonheur est dans la foi, pas la croyance religieuse, mais dans la foi en Jésus-Christ. Parce que il est ressuscité, il est vivant. Ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin de prendre. Et on passe souvent sans le voir. Car le bonheur est si petit. Je reviens sur cette notion d'insignifiance, mais infinie. Il est si petit, et nous pouvons finalement, eh bien, un instant comme un éclair, avoir nos yeux éblouis de lumière et nos cœurs remplis d'amour, parce que c'est là-dessus que nous allons méditer. Ouais, pas l'amour qui est proclamé dans les chansons, dans les films, etc., etc., qui est véritablement, eh bien là, un souffle éphémère. Mais il y a une autre dimension. Et le bonheur ne se cache jamais, il suffit de le chercher, il suffit de le demander. Seigneur, donne-moi un peu de bonheur. Vous savez, quand on est malade et sur un lit d'hôpital et que ça traîne, on a besoin véritablement d'être visité. Si je me permets, si vous me le permettez, quand j'ai subi mes différentes opérations, et surtout la première, véritablement, et ça n'arrive pas tous les jours, mais après l'opération, le lendemain de l'opération, j'étais pas bien, ça c'est sûr, et j'ai vécu quelque chose, et ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais comme quelque chose qui m'emportait, qui me soulevait. Et dans ces situations, vraiment être rempli d'une plénitude peu commune. Et c'est souvent dans ces moments d'épreuve, souvent dans ces moments où nous traversons un deuil, où là il y a quelque chose à côté, quelque chose en parallèle, où nous sommes remplis de cette joie et de cette paix que nous appelons bonheur, et qui, quelque part, eh bien, nous donne de nouvelles forces. Eh oui ! Il faut y croire. Il faut le vivre. Alors, il ne se cache jamais, et c'est là son grand secret, et nous l'avons entendu dans des louanges, le bonheur est là, mieux encore, il est en nous. Je le cherche, je regarde avec des pensées inquiètes, avec toutes sortes de questionnements, toutes sortes de hauts et de bas. Et moi, je le cherche à l'extérieur, dans le béton, dans la fortune, dans l'aisance, dans le confort, etc., etc. Ça fait partie, finalement, de la bénédiction de Dieu. Mais c'est pas ça. C'est le bonheur à l'intérieur. Il est en nous. Eh oui, il est en nous. Alors, on va aller un peu plus loin. Et je reviens sur cette parole. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, parce que c'est contributif, finalement, eh bien, de cet intérêt pour la vie. S'il veut aimer la vie et voir des jours heureux. On a tous des petits bonheurs, on a tous des grands bonheurs, puis on a aussi le contraire, hein, c'est vrai. L'apôtre Pierre commence par cette injonction. Il dira « Soyez tous ». L'apôtre Pierre s'adresse à l'Église, il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à des personnes qui ont fait une expérience avec le Seigneur, mais il n'est jamais trop tard pour faire votre première expérience aujourd'hui. Hein. Alors, soyez tous, en d'autres termes, le grand sujet que nous abordons, que Pierre aborde, c'est un but pour vivre heureux. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Alors on entend tellement de réprobation contre Dieu, si Dieu existait, si Dieu ceci, si Dieu cela, alors ne me faites pas croire en Dieu, parce que moi je crois qu'il n'existe pas, avec tout ce que je connais, tout ce que je vis et tout ce que je souffre. C'est faux. Oui, pour vivre des jours heureux. Et la première condition, c'est tout simplement, et nous l'avons devant les yeux, nous allons le méditer, c'est l'unité dans l'Église et c'est l'unité de l'Église. J'ai dit tout de suite qu'elle est loin d'être parfaite, l'Église. Le pasteur le sait, ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'unité de l'Église, laquelle évolue, et paradoxalement, et parallèlement, et contrairement, cette Église, là, le rassemblement des chrétiens, c'est pas un bâtiment, mais c'est ce qui nous unit en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Alors, nous vivons dans un monde de désordre, de dislocation, il suffit de regarder un peu ce qui se passe autour de nous, et les valeurs du vivre ensemble, ou les valeurs de vivre ensemble s'érodent, parce que beaucoup de principes, les fondements mêmes sont regardés comme dépassés et anachroniques dans notre société contemporaine. Il y a des choses que nos ancêtres, nos anciens, nos parents, nos grands-parents avaient des valeurs. Mais aujourd'hui, le monde est complètement bouleversé. Et comment le juste s'y retrouverait dans un monde pareil ? Nous sommes dans une drôle d'époque. Oui, il faut bien le reconnaître. Alors, Pierre va dévoiler 5 qualités mentionnées dans le texte qu'il écrit et qui relèvent de la pensée, l'intelligence, le cérébral, si vous voulez. Des sentiments, c'est le cœur. Et de ces sentiments, il doit y avoir en son cœur l'amour et ensuite la compassion. Et puis également, eh bien, tout simplement, l'humilité. 5 éléments que nous allons détailler assez rapidement. Le « soyez tous » de l'apôtre Pierre indique l'unité dont le contraire, c'est la haine. Ouais. Le désintérêt des autres. L'orgueil. L'opposition. Bien, mal, mal, bien, et tout ce que vous voudrez. Les rivalités entre les hommes. Les conflits et les querelles. C'est de là que naissent finalement les guerres. Ainsi doit se démarquer le peuple de Dieu du monde, qui vit dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. C'est ça le tour de force de ce que Dieu veut parvenir. Et ces dispositions qui sont rappelées aux chrétiens de l'époque, du temps de Pierre, sont affaires de témoignage. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus dans le sermon sur la montagne. C'est une affaire de témoignage, de bon témoignage pour donner envie aux autres de voir qu'un chrétien authentique, véritable, qui suit Jésus-Christ, qui vit de la vie de Jésus-Christ, qui est rempli de l'Esprit de Christ, est capable finalement de reverser la tendance autour de lui et de changer le mal en bien. C'est une affaire de témoignage, je dis. Et de bonne conduite, parce qu'il faut qu'il y ait des actes aux paroles. Ce que nous comprenons, il faut le vivre. Autrement, nous sommes comme les pharisiens du temps de Jésus, où il aura fait un compliment extraordinaire, vous êtes une bande d'hypocrites. Et ce n'est pas le visage que doit montrer finalement l'Église. Alors Pierre va définir le chemin de l'unité. On a bien parlé, soyez tous. Donc il y a bien quelque chose de caractéristique. L'unité, je vais le décliner, l'unité n'est pas le produit de l'ignorance du genre qui serait courant parmi les enfants de Dieu, les chrétiens. Ça ne me regarde pas. Moi, je vis ma vie et puis les autres, ils se débrouillent. Voilà. Je ne veux pas savoir. C'est encore une forme de désintérêt. L'indifférence devant le mal. Il se passe des choses, mais on ne dit rien parce que finalement, ça... C'est comme ça. Et pourtant, nous avons lu ensemble, ne rendez pas le mal pour le mal et l'injure pour l'injure. Parce que là, on est complètement dans le contraire de la direction du bonheur. Eh oui, c'est la guerre. C'est les choses qui vont, finalement, eh bien là, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes dans l'évangile de la grâce, l'évangile de l'amour, l'évangile où je m'intéresse à mon frère et ma sœur. Je compatis autant que cela m'est donné de le faire jusqu'à la mesure où je peux le faire, naturellement. Mais avec les sentiments. Et s'il y a les sentiments, il y aura les actions après, quoi qu'il en soit. Le laisser faire et le laisser aller. Je pense que là, c'est aussi important pour aller vers le bonheur. Allez, après moi vient le déluge. Oui, il y a des problèmes dans l'Église. Bon, laissons faire et puis ça, on verra bien comment ça va se faire. Non, c'est pas la voix du pasteur qui est dominante. C'est la voix de l'Esprit de Christ à l'intérieur de nous-mêmes qui, avec notre conscience, va nous dire non, c'est pas bien. Et on sait très bien discerner ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le bien, le mal. Alors, si nous voulons être heureux, si nous voulons nous rendre heureux les uns les autres, si nous voulons partager dans toute notre vie sociale ou dans notre vie familiale, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas être désintéressé. On est tous unis, eh bien, et il n'y a pas de laisser faire et de laisser aller. Sans revendiquer un légalisme, une loi, comme on l'a dit tout à l'heure, œil pour œil, dent pour dent. Ça, ça n'existe plus maintenant. Ça, c'est avant Jésus, dans le peuple juif. Alors, l'unité, elle n'est pas le produit de l'ignorance ou de ne pas vouloir savoir. Elle n'est pas le refus d'affirmer ses convictions propres, en disant « moi je me tais et puis c'est tout ». Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une confession de foi hardie dans la vérité, dans ce qui est vrai et que tout le monde peut comprendre. Et on n'est pas... voilà. Non, on sait ce que c'est que la vérité, quand on l'a reçue, quand on est enseigné. Cette unité, eh bien, est toujours respectueuse. Et elle doit être une règle. Elle est une règle. Aucune lâcheté. Hein, oui. Ceux qui se déballonnent, ceux qui sont lâches, ceux qui se disent, eh ben voilà, non, je ne veux pas avoir d'ennui, alors je ne m'en occupe pas. Non, on est tous concernés. Surtout quand on voit des gens, des frères, des sœurs, même des hommes de l'extérieur, quand on sait qu'ils sont malheureux, on peut toujours tenter, finalement, eh bien, de les aider. Maintenant, il y en a certains qui ne veulent pas se laisser aider, hein, ça je peux vous le dire. Mais bon, après, c'est leur problème, c'est leur responsabilité, naturellement. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure pour confirmer que l'unité n'est pas réduite à des règles rigides. Ce n'est pas une caserne, l'Église. Ce n'est pas un régime militaire. Ce n'est pas, là, en effet, le régime du bagne, des forçats, parce qu'il y a certaines religions, c'est ça. On appelle ça des sectes, de toute manière. Donc... ce n'est pas des règles rigides, formalistes, j'ai cité le mot sectaire, afin d'assurer une pseudo-paix, un enfermement, et j'y ajoute l'adjectif religieux. Eh oui, il y a des gens qui, quelque part, se mettent derrière des forteresses, ils sont tranquilles, et nous voyons que, quelque part, eh bien, on se dit, ben, on a une paix relative, mais c'est pas... si c'est la paix qui vient de Dieu, c'est d'accord, mais si c'est une fausse paix, on va la perdre à un moment donné. Et il en ressortira que des conflits, que des histoires, que des bavardages qui dégénèrent. Eh oui, l'unité, c'est aussi une prise de position. Et pas se mettre derrière une loi et d'appliquer cette loi pour dire, voilà, maintenant, moi, je vais être tranquille. Mais c'est tout son contraire, l'unité. L'unité, c'est une chose que Dieu a donnée dès le départ. Dans le jardin d'Éden, ça a commencé par très peu. Mais... c'est quelque chose qui doit avoir la saveur de l'amour, ou le goût de l'amour, qui construit et qui ne détruit pas. Nous avons été appelés à construire et non pas à détruire. Et il y a une ouverture caractérisée par ceci, le texte le dit, « bénissez ». Vous savez, on vit dans un monde où il y a des scandales, et des choses qui sont choquantes. Des choses qui sont ahurissantes, des choses qu'on n'aurait même pas pensé. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, mais bénissez. Bénir, c'est dire du bien. Dire, bénédictons, dire du bien, bénédiction. Toujours accompagné de bienveillance, parce que nous veillons au bien, à faire du bien, à dire du bien, car... c'est pour cela, Et c'est à cela que nous avons été appelés, nous avons vu le mot, hein. C'est à cela que vous avez été appelés, à recevoir la bénédiction promise et qui donne le bonheur, qui nous conduit au bonheur. C'est une autre voie, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de croire en Dieu, d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction pour les uns et pour les autres. Et ça, ça amène du bonheur, pas le contraire. Et je le dis toujours, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans la vie sociale, c'est vrai partout. Bénissez. Alors Pierre présente la meilleure défense de l'unité comme un impératif absolu, celui de faire du bien, de dire du bien, de répandre le bien, car il faut que nos lèvres s'ouvrent pour répondre à la malédiction par la bénédiction. Et nous allons voir dans la suite de notre message la vie, l'unité, gage du bonheur. Au verset 10, je le reprends, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, y trouver du goût, y trouver de l'intérêt pour soi-même, mais mettons les autres en avant d'abord et voir des jours heureux. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux. Tout ce que nous rangeons sous le nom de bonheur est lié à la bénédiction de Dieu qui ne manquera pas et réservé à ceux qui savent bénir et être en bénédiction aux autres. Lorsque nous contribuons au développement, à la vie, au témoignage dans une église, c'est que nous mettons tout en commun avec chacun sa vision, chacun sa pensée, chacun son appel, et c'est pour un bien commun. Un bien de bénédiction, non seulement pour nous, nous renfermer dans notre petite société en disant les autres, le monde ne nous regarde pas, mais de pouvoir finalement, eh bien, par un témoignage crédible, de pouvoir répandre cette bonne semence autour de nous et donner à ceux qui sont malheureux envie d'être heureux. Parce que vraiment l'évangile, ça rend heureux. Et on sait ce qu'il en est. Quand on est passé comme le fils prodigue, quand on est revenu à la maison du Père, dans quel état nous étions ? Et dans quel état Dieu nous a accueillis? Il ne nous a pas mis à la porte. Et après, c'était le festin. Je ne veux pas dire que tout est bien, tout est formidable dans la vie chrétienne. Parce que nous avons aussi nos misères, nous avons nos peines, nous avons nos deuils, nous avons nos déceptions, nous avons quelquefois affronté la méchanceté, la malignité des autres. Mais si à l'intérieur, eh bien, cette graine qui n'est pas du tout aucunement livrée, mais le bon grain, mais ça continuera, hein. Et c'est ça justement ce qui est important, il faut s'en souvenir. Il y a ceux qui aiment trop la vie, au point d'en oublier d'aimer celui qui en est le créateur. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein ? Il y a ceux qui ne l'aiment pas assez, qui quelquefois se disent « c'est pas la peine d'aller plus loin », qui la boudent et qui la méprisent, mais la vie elle est sacrée. Je veux être heureux pour Dieu. Je veux être heureux avec Dieu et je veux être heureux pour pouvoir rendre les autres heureux. Et si vous vivez avec des gens tristes, avec des gens dépressifs, ce n'est pas de leur faute. Mais c'est terrible. Vous allez amener, vous allez semer quelque chose, une odeur de médiocrité, même peut-être de mort. Dieu nous invite finalement, eh bien là, à changer notre façon de faire, à aimer la vie, et l'aimer, c'est honorer celui qui l'a faite. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Certes, il n'est pas dit que cette vie sera exempte de lutte, loin s'en faut. Elle ne sera pas épargnée par des souffrances, par des épreuves, des contrariétés. Et il n'a pas dit non plus, Dieu, en nous créant la vie ou en nous donnant la vie, qu'elle serait privée de joie, qu'elle serait... ou tout simplement les victoires seraient absentes, qu'il n'y aurait pas de réussite et de succès. Il y a les deux. Et je ne dois pas seulement me réjouir et avoir le bonheur quand tout va bien, mais aussi, et ça c'est paradoxal, c'est vraiment le miracle de Dieu, hein, quand ça va mal, quand tout tourne mal, d'avoir cette paix, ce bonheur et ce à l'intérieur de nous-mêmes. Ça c'est le défi. Le monde vit avec... Eh bien, c'est comme le climat, c'est pareil. Un jour, c'est d'une manière, un jour, c'est d'une autre. Mais le chrétien, lui, va rester stable dans tout ça. Et c'est comme ça qu'il pourra rendre un bon témoignage. Et les autres vont le voir traverser des moments difficiles et il restera toujours très positif. Vous savez, il y en a un qui travaille pour que nous soyons négatifs, hein. Ah, tout est moche, tout est gris, tout est... Ouais. Mais c'est pas ça. Ça dépend. Notre bonheur ne dépend pas des temps et des circonstances. Mais notre bonheur dépend de notre relation avec le Seigneur et de laisser le Saint-Esprit finalement, eh bien, prendre sa place à l'intérieur de nous-mêmes. La vie, elle est faite de bonheur et de tristesse. Mais ne soyons pas à nous réjouir des épreuves qui nous arrivent sur la tête, mais restons avec ce fondement, cette pierre solide à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'est pas souvent dit que, quoi qu'il en soit, quoi que soient les circonstances dans notre vie, ce qui peut nous en coûter aussi, hein, de vouloir être heureux. Eh oui. Et de nous attendre avant tout, eh bien, à Dieu. Il nous est simplement dit, à des jours heureux. Vous avez la perspective, vous êtes déjà dans la possession de cela. Mais ça va mûrir, ça va éclore, ça va véritablement, eh bien, devenir quelque chose de concret. À des jours heureux. Cette certitude que Dieu veut mettre dans notre cœur, et la parole de Dieu est là pour finalement nous fonder, cette certitude est suffisante pour nous délivrer du souci. Eh oui, fortifier notre foi, faire totalement confiance au Seigneur, nous abandonner à celui qui a dit. Alors, souvenez-vous, ne vous inquiétez de rien. Pas facile, hein. Peut-être que certains d'entre vous pourraient peut-être penser, ben oui, il est bien gentil Alain, mais... Avec tous les problèmes que j'ai, ne vous inquiétez de rien, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, parce que c'est possible de réaliser ce miracle qui change les choses, qui bouleverse les choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chapitre 7 ou 6, je crois, dans le Sermon sur la montagne. À chaque jour suffit sa peine. Et je voudrais y ajouter quelque chose, parce que c'est pas écrit, mais moi je le dis. À chaque jour suffit... rempli du bonheur que Dieu est capable de nous donner. Mais oui, naturellement. Aimer la vie, c'est accepter tout ce qu'elle offre, dans un sens ou dans un autre. Mais le voir avec, eh bien, la bonne paire de lunettes, en quelque sorte, si je peux me permettre. Hein. Le meilleur et le pire, parce qu'il y aura du meilleur, et puis il y aura aussi des choses qui ne seront pas forcément très agréables. Sachant que le pire avec Dieu... Non, excusez-moi. Sachant que le pire avec Dieu, il y avait une virgule, hein, peut être changé en meilleur. C'est lui qui transforme les choses. Transforme les choses. Or, le poison qui gâche tout, eh bien, qui pourrit finalement, eh bien, la qualité de notre vie, c'est encore notre ego. Notre moi, nos revendications, notre insatisfaction, notre mécontentement, les inquiétudes, l'incrédulité, l'individualisme, l'amour tout simplement de soi, que l'on appelle l'orgueil. Tout pour moi, et puis après on verra bien ce qui se passe. Tout pour nous, pour nuire notre union avec le Seigneur et nos semblables. Et dans ces conditions de repliement, on ne saurait aimer la vie. Parce que nous ne sommes pas en exposition devant la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, mais nous nous sommes mis à l'ombre, en espérant que nous allons nous débrouiller tout seuls. L'ombre, c'est la nuit. L'éclairage de Dieu, c'est la lumière. Vous êtes la lumière du monde, et c'est Dieu qui nous éclaire, quoi qu'il en soit. Il y a une citation, bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais je l'ai toujours gardée. Au lieu de noyer les inquiétudes et les soucis, beaucoup d'hommes les ramènent à la surface pour leur apprendre à nager. Ben, vaut mieux qu'ils aillent au fond. Hein. Eh oui, on est toujours en train de ramener. Ah ouais, mais ça va pas, et ceci, ça va pas, et ceci et cela. Donc on leur apprend à nager, ils flottent. Eh oui, mais ils ne mourront jamais, hein, nos inquiétudes et nos soucis. Eh, on leur apprend à nager. Et ça, c'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Alors adieu bonheur. Et puis, il y a également ce point que j'aimerais développer, puisqu'il est dans notre texte, qu'il préserve sa langue du mal. Ah oui, c'est la conséquence de tout ce que nous avons. Et s'élève des paroles trompeuses. Bronché en paroles, nous dit un apôtre, je ne sais plus si c'est Jacques, je crois. Bronché en paroles, à travers des murmures quotidien, des critiques, le jugement verbal, tout ne va jamais bien. Combien la langue joue un rôle, autant pour faire l'unité que pour faire la désunion. Hé, c'est pas grand-chose, hein, la langue, hein. Mais pourtant, on peut faire beaucoup de choses, hein. Et c'est vrai que Dieu nous a donné la capacité de parler, la capacité de langage. Il nous a donné, comme nous l'avons vu expérimenter ce matin, la capacité de le bénir, de l'adorer, de lui apporter le témoignage de nos louanges qui confessent son nom. On l'a vu, hein, mais ça peut être le contraire également. Des gens qui sont toujours mécontents. La langue joue un rôle autant pour faire l'unité que pour mettre la division. Le bonheur ou le malheur en dépendent. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques parlera de l'eau douce et de l'eau amère, et elle ne peut pas sortir de la même source. Et si nous sommes chrétiens, eh bien Dieu va nous inspirer des paroles de bénédiction, et non pas des paroles de malédiction. Des paroles de mensonge, mais des paroles de vérité. Des paroles d'amour, et non pas des paroles de mépris ou tout ce que vous voudrez. Oui. Qu'il s'éloigne du mal, nous dit le texte. Il faut faire attention quand nous sommes chrétiens de ne pas flirter avec toutes sortes de complaisances qui, quelque part, nous donnent une certaine satisfaction fugace et futile, mais qui ne construit pas. C'est de l'ivraie que nous semons à ce moment-là. Et qu'il fasse le bien. Faire, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas de le savoir, c'est de le vivre, de le pratiquer. Le bien en parole et le bien en action, c'est nécessaire si nous voulons être heureux. Dans les deux cas, cela suppose la dépendance de la vie, de la foi en Jésus et la dépendance du Saint-Esprit. Le bien, selon Dieu, est facteur d'unité entre les hommes. Eh oui, faisons le bien. Recherchons le bien. Quel bien puis-je faire aujourd'hui, dans la semaine? Quel bien dois-je, auquel je dois m'attacher pour que les hommes puissent voir que finalement Dieu est un Dieu de bien et non pas le contraire? Moi, je suis son ambassadeur, quelque part. Hein. Et les gens ne sont pas fous. Hein. Ils voient bien, hein, à travers le langage qui véritablement est une bénédiction et le langage qui est grossier, qui est trivial et tout ce que vous voulez. L'identification se fait très vite. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et qu'il recherche, un peu plus loin, et qu'il recherche la paix et la poursuive. Il existera toujours des hommes de paix et des hommes de guerre. Des Caïn qui tuent Abel. Et de toutes sortes de gens qui sont animés dans leur cœur de mauvais sentiments pour se débarrasser parce que ça ne leur plaît pas, parce qu'ils ne les aiment pas, tout simplement. Heureux ceux qui procurent la paix, nous dit Jésus. C'est Jésus qui le dit dans le sermon sur la montagne. Et ils seront appelés fils de Dieu. Nous voulons être appelés fils de Dieu, fille de Dieu, famille de Dieu, enfant de Dieu. Ça paraît puéril comme ça, hein? Mais il y a une valeur spirituelle beaucoup plus profonde, naturellement, vous l'avez compris. Père et fils, même esprit, même objectif, parce que nous servons un Dieu de paix. Je vais bientôt finir. Qu'il recherche la paix. Et vous savez, si vous cherchez la paix, c'est pas dans les conférences plénipotentiaires là, entre tel pays et tel autre, comme on entend parler, hein, parce que la terre est en flamme, hein, le monde est en flamme en ce moment. Hein. Ouais. C'est pas dans ces instances-là qu'on trouve la paix. Moi, je vais vous dire où aller. Ça peut peut-être faire sourire les incrédules ou les ennemis de Dieu. La paix ne se trouve là où Dieu l'a signée, c'est-à-dire à la croix. C'est là que Dieu a signé la paix avec l'humanité qu'il a créée. C'est là où la proposition de, comment pourrait-on dire, de traité de paix, c'était pas à Versailles en 1919, hein. Non, c'est à la croix il y a 2000 ans, à Golgotha, et cela nous devons jamais oublier dans notre vie, quelles que soient les conditions de notre existence, que la paix, elle nous vient de la croix, Jésus crucifié à la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et nous sommes tous au bénéfice de ça. Le croyant et l'incroyant. Le croyant va en bénéficier jusque dans l'éternité. Et l'incroyant n'y aura pas droit. Parce qu'il préfère finalement le contraire de la paix. Il la poursuit. N'oublions jamais de revenir toujours au sacrifice de Jésus à Golgotha quand il a donné sa vie pour des pécheurs que nous étions. et pour faire de nous des enfants de Dieu, des réconciliés. Et il faut y revenir sans cesse, mes frères et sœurs. La prédication de l'Évangile, quel que soit le prédicateur ou le pasteur, c'est de toujours mettre la croix de Jésus en avant. Si vous enlevez la croix, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Après, c'est de la religiosité. Après, ce sont des rites. Après, ce sont toutes sortes de principes humains, des traditions humaines, des légendes, toutes sortes de choses. Mais la croix, c'est l'essentiel. Parce que c'est là où j'ai été sauvé. C'est là où vous êtes sauvé. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas une église qui sauve. C'est la croix de Jésus qui sauve. Et c'est Jésus qui était sur la croix à notre place. On ne l'oublie pas. Alors, ne nous comportons pas comme le vieil homme naturel qui se dit « Oh ben oui, mais Dieu m'a pardonné mes péchés, mais je peux faire quand même ce que je veux. » Non. Par obéissance et pour l'amour de Jésus, je ne vais pas faire ce que je veux. Et je ne serai pas contrarié pour autant. Je serai heureux de faire la volonté du Seigneur avec sa force et sa grâce. Crucifié avec Christ. La croix est le lien de l'unité, puisque nous avons parlé de l'unité. Lieu de réconciliation, union, réunion, c'est ça ce qui nous relie. Je termine la conclusion. Il y a deux promesses cardinales dans la fin de notre récit. Dieu nous fera aimer la vie si nous lui demandons. Donne-moi d'aimer la vie, Seigneur. Elle ne sera peut-être pas la même que les autres. Elle ne sera peut-être pas ressemblante que les autres, et puis d'une manière ou d'une autre. Avec sa conséquence logique, ce qui déjà ici-bas, eh bien, parce que nous l'aimons. Oui, exactement. Nous aimons le Créateur, mais nous aimons ce qu'il nous a donné, donc la vie. Quel sera le ravissement de la vie éternelle qui nous attend dans le ciel ? Aucune comparaison avec ce que nous vivons sur la terre. Premièrement, le mal n'existera plus. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus que le bien qui va demeurer. Alors on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être, mais ça sera pourtant une réalité. Le deuxième point, c'est les yeux du Seigneur sont sur les justes, sur ceux qui, véritablement, aiment Dieu. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Dans cette vie, il s'agit, finalement, eh bien, que Dieu, d'être disposé à ce que Dieu nous donne. Les yeux nous voient, les yeux de Dieu nous suivent pour nous bénir. Ses oreilles, eh bien, là, entendent ce que nous lui demandons et il prend plaisir, justement, à chacun d'entre nous. Et nous y trouverons notre bonheur dans tout cela. On a quelquefois été formidablement été heureux d'un bonheur qui ne s'explique pas sur la terre, d'exaucement de prières que nous attendions. Ah oui, on a prié, peut-être qu'on a souffert en attendant la réponse, et quand c'est arrivé, on a dit « Mais Seigneur, tu ne m'as pas donné ce que j'ai demandé, tu m'as donné au-delà de ce que je t'ai demandé. » Et là, ça réjouit. Et là, c'est le bonheur. Ses yeux, ses oreilles. Et vivre, voir et vivre des jours heureux. Et ça ne peut pas être en dehors de l'unité. Mon unité entre Dieu, le Père, et moi avec lui. Et c'est vrai sur le plan de la vie sociale, la vie familiale, la vie conjugale, la vie morale et la vie spirituelle. Je ferai simplement un résumé. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, il y a un impératif que je voudrais vous rappeler. Soyez. C'est le verbe être, qui se traduit par l'attitude des faits, des actes en soi, et d'avoir toujours devant nous et au fond de notre cœur le modèle et l'esprit de Christ. Soyez et non paraissez. Parce que ça serait de l'hypocrisie de toute façon. Et puis, soyez tous, ce n'est pas l'isolement. Ce n'est pas cavalier seul. L'ensemble formant l'unité, une symphonie, l'union n'exclut pas la diversité. Ce qui fait la beauté d'un chef-d'œuvre, d'une symphonie, c'est l'accord musical parfait de tous les instruments dans le respect de la spécificité de chacun, jouant la même partition. Moi, j'aime bien la musique classique. Ah oui. Ah oui, j'aime bien parce qu'il y a des choses qui sont formidables. Et vous voyez quelquefois des orchestres constitués avec, je ne sais pas, de dizaines de musiciens. C'est extraordinaire de voir comment ça marche, hein. Bien sûr. Tout le charme de la musique, c'est, eh bien là, tout simplement, l'unité sous la baguette du chef d'orchestre. Pandore, il n'y a pas de concert sans chef d'orchestre. Et on voit là les percussionnistes, on voit le pianiste, on voit les violons dans différentes gammes, dans différentes choses. Et ça, c'est ce qui fait la beauté. Eh bien, pour l'Église, c'est exactement la même chose, la vie chrétienne, la foi. C'est dans notre cœur, à chacun, que se trouve la réponse. À l'unité chrétienne, une même pensée, un même sentiment. Et le traitement consiste tout simplement à travers la purification de nos vies. Jésus a pardonné nos péchés, on n'y revient pas. La régénération, c'est la transformation de notre âme pour être à l'image de Jésus-Christ, à sa ressemblance. Et la sanctification, c'est une œuvre exclusive du Saint-Esprit, les pensées, les sentiments, la volonté, comme il nous est dit quand Jésus dira dans Jean chapitre 17, Père, je veux que mes disciples, je veux que ceux qui me suivent soient un comme nous, Père, moi. Et l'Église soit un. L'unité. L'unité n'est pas le produit de ce raisonnement charnel. Je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Je souhaite que vous partiez de cette salle en disant ben, on l'a écouté. Bon, ben voilà, il parle et puis c'est tout. Mais ça ne m'intéresse pas, non? C'est pas ça. Gardez ce que vous avez. On ne peut pas se désintéresser finalement eh bien, de la vie dans laquelle Dieu nous a placés pour faire du bien. Ce n'est pas possible. L'unité ne peut être réduite à un fonctionnement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, organisation rigide, formaliste et tout ça. L'Église n'est pas une religion. L'Église est une entité spirituelle, essentiellement spirituelle, dont le chef est Jésus-Christ, dont la nourriture est la parole de Dieu, et dont la présence de Dieu est en nous source de notre bonheur. Pas à côté, pas à l'écart, mais véritablement, eh bien là, au fond de nous-mêmes. L'unité ne se fabrique pas avec des compromissions douteuses et des arrangements équivoques entre soi ou entre soi-même. Ce n'est pas des approximatifs en disant, ben, voilà, moi bon, j'ai ma petite vie chrétienne, mais je fais un petit peu ce que je veux, et puis j'arrange les choses à ma manière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est une obéissance, une soumission. Et ça doit être clair et limpide, hein, parce que nous sommes des artisans d'édification et nous ne sommes pas des artisans de démolition, malheureusement. Malheureusement, ça se voit dans toutes sortes de communautés, toutes sortes de religions. Le monde n'a jamais été aussi divisé. Et voici la clé de voûte de l'unité, c'est l'humilité, parce que, laissez-moi vous dire, que l'orgueil est le cancer de l'unité, comme dans le corps humain, jusqu'à sa destruction. Hein. Alors, l'apôtre dira, bénissez. Bénissez, on l'a chanté tout à l'heure. On le chante dans nos cantiques. À ces conditions d'honneur et de respectabilité, on peut s'attendre à la grâce bénie de Dieu et voir des jours heureux. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Oui, tu es venu, Seigneur, le jour où il y a eu cette rupture. Cette fracture dans le jardin d'Éden, et tu ne t'es pas résolu à laisser aller le monde à sa destruction, à sa condamnation, à tout simplement, eh bien là, à la mort. Mais tout de suite, tu as répondu, et tu es venu, en effet, nous donner ta parole, nous donner ta grâce, nous parler, en effet, de la croix, et nous dire qu'en effet, Seigneur, eh bien, tu veux que nous aimions la vie. Et permets que nous puissions te le dire ce matin. Seigneur, aide-moi à aimer la vie que tu m'as donnée. Seigneur, donne-moi d'aimer cette vie qui vient de toi. Donne-moi, Seigneur, pour que cette vie que tu m'as donnée puisse me faire, eh bien là, me donner, me procurer des jours heureux. Ce n'est pas pour le contraire, mais c'est véritablement des jours heureux, des jours de bonheur. Alors, donne-nous de connaître cette félicité. Nous la connaîtrons lorsque nous arriverons de l'autre côté, à la perfection et pour l'éternité. Mais en attendant, en effet, aide-nous, Seigneur, à voir des jours heureux. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et gardez cette parole au fond de votre cœur, mes frères et sœurs.